Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'immobilier avec le livre Les secrets de l'immobilier de Charles Morgan. Alors j'ai trouvé ce livre vraiment intéressant car il aborde un peu toutes les facettes de l'investissement immobilier. Donc je voulais en fait vous le partager un peu mon ressenti sur ce livre et vraiment délivrer un peu toutes les clés qu'on peut y retrouver dites à ma manière. L'immobilier en fait représente l'avantage d'un placement plus sécurisé et plus sûr que les placements boursiers puisqu'il assure en fait le même rôle, c'est-à-dire un rendement qui va permettre de dégager en fait un revenu avec des loyers perçus chaque mois. C'est vraiment le grand principe abordé par ce livre. Aujourd'hui en fait il est tout à fait possible d'investir dans l'immobilier avec peu d'apport et c'est là la grande force de l'immobilier puisque l'apport dans l'immobilier prend tout son sens avec le crédit bancaire. En effet, en fait, si vous placez 50 000 euros, par exemple, sur les marchés financiers, finalement, le retour sur investissement sera proportionnel et donc relativement faible. Tandis que si vous faites un apport de ces mêmes 50 000 euros, vous pourrez emprunter peut-être 200 000 euros et cela fera un investissement total de 250 000 euros. On voit bien qu'avec un apport en immobilier, cela permet d'obtenir une somme bien plus grande que celle que l'on pourrait obtenir sans apport et on décuple en fait finalement notre potentiel d'investissement, ce que l'on ne peut pas faire. Si vous mettez 50 000 euros, vous ne trouverez personne pour vous prêter 200 000 euros sur les marchés financiers. Vous êtes quasiment sûr de trouver personne puisque le risque est vraiment trop grand sur les marchés financiers. L'auteur aborde également les stratégies de l'immobilier. Donc il y a deux grandes stratégies, l'investissement locatif, ça consiste à acheter pour louer, amortir son capital avec un investissement qui s'autofinance. Et la deuxième option, c'est un achat suivi d'une revente de façon très rapprochée, de manière à dégager une plus-value immédiate. Il aborde en fait d'autres types de stratégies, la rénovation, l'amélioration de l'appartement pour le louer plus cher, le changement de destination d'un bien, par exemple, un logement que l'on passe en bureau ou en cabinet médical ou inversement des locaux commerciaux en logement. Tout ça, c'est tout à fait possible. La location courte durée qui permet également de louer plus cher. Les stratégies d'achat groupé. Si un bien est trop cher et qu'il est divisible, il s'agit d'acheter à plusieurs un bien et de se répartir les lots dans l'idée. L'idée, c'est d'avoir une plus forte capacité d'endettement à plusieurs pour pouvoir, par exemple, se porter sur un immeuble. Le livre aborde également l'aspect emprunt bancaire, le dossier bancaire. Le grand principe en fait pour obtenir son crédit bancaire, c'est tout simplement des revenus réguliers, une bonne gestion du compte. Et notez bien qu'il n'est pas forcément utile d'avoir un gros revenu. On entend souvent dire que en immobilier, on ne peut pas acheter sans gros apports, sans gros revenus, etc. Mais tout simplement, c'est la régularité, la bonne gestion qui compte. En partant de là, vous partez sur de bonnes bases en fait pour que les banques vous ouvrent leurs portes et soient plutôt réceptives à votre demande. Les deux grandes stratégies de la présentation chez le banquier, c'est la première, vous allez le voir en amont pour connaître votre capacité d'endettement sans avoir aucun projet particulier ou aucun bien en tête, aucune visite encore effectuée. Soit vous allez voir directement votre banquier avec votre projet en main, sachant que vous pouvez par vous-même calculer votre capacité d'endettement avant d'aller voir le banquier. Mais peu importe finalement la stratégie immobilière, vos intentions, le critère le plus important finalement pour obtenir un prêt bancaire, c'est la bonne gestion de votre compte et votre sérieux à mettre de l'épargne de côté, à montrer que vous êtes finalement engagé à respecter vos engagements par rapport à la banque et à rembourser votre crédit sur le long terme. Finalement, si vous maîtrisez bien vos budgets, votre épargne, vos comptes, l'idée que ce que fait de la banque, en fait, c'est que elle prend un risque relativement faible à vous prêter de l'argent. La recherche du bien, pour l'auteur, c'est une véritable investigation. Ce n'est pas simplement regarder des annonces, comparer des prix. En fait, il faut vraiment faire une étude complète. Par exemple, l'emplacement du bien. Pour commencer, privilégiez les quartiers anciens, les quartiers en rénovation et nous conseille aussi d'essayer de repérer les quartiers qui en sont en train ou vont être embellis par la ville. Également les quartiers qui sont servis par les transports en commun, notamment dans les grandes villes avec les métros et les tramways. Il est clair que dans une grande ville, en fait, où les gens prennent beaucoup les transports en commun, un appartement situé proche d'une station de métro, d'une station de tramway a beaucoup plus de valeur qu'un appartement où il est obligatoire de prendre sa voiture pour se déplacer. Et ce critère prend tout son sens souvent dans les premières couronnes des grandes villes où le stationnement est payant et où il est de plus en plus difficile de se garer. A contrario, l'auteur nous conseille d'éviter les zones où il y a un grand nombre de logements à vendre. En passant, je profite en fait pour ajouter un conseil personnel. Pour ce qui me concerne, en fait, moi j'évite les quartiers connus pour être dégradés. Hein, dans les villes, il y a forcément des quartiers comme ça. Si vous avez par exemple des cages d'escalier abîmées, des boîtes aux lettres abîmées, vos charges de copropriété seront plus élevées que dans un endroit où il y a effectivement le matériel qui est respecté. Et donc ça peut jouer énormément, ça peut carrément mettre à mal votre rentabilité d'avoir des charges de copro qui soient augmentées dues à justement des dégradations récurrentes et ce genre de problème. Après, est-ce que vous partez sur l'achat d'un appartement ou d'une maison individuelle? Alors, c'est peut-être la question numéro 1 à se poser. Vers quel type de bien voulez-vous opter pour votre premier investissement? Alors, pour ce qui concerne l'appartement, a priori, c'est plus simple à acheter. La plupart du temps, en fait, il s'agit d'un lot dans un immeuble. Peut-être il y a moins de choses à vérifier que dans une maison. Par contre, vous devez vous plier aux règles de copropriété et les respecter. Également, vous aurez à payer des charges de copropriété qui vous sont imposées dans le cadre de la gestion de l'entretien de la copropriété, car en étant propriétaire d'un appartement, du lot que vous souhaitez acheter, vous serez également propriétaire d'une partie communes. Par exemple, ce qui est couloir, cage d'escalier, en fait, c'est divisé en fonction du nombre de propriétaires. Et ces parts sont réparties entre l'ensemble des propriétaires de l'immeuble. Et ces parts en fait sont réparties sous la forme de tantièmes. C'est le nom qu'on donne à ces parts. Par exemple, si vous avez un immeuble à 1000 tantièmes avec 10 appartements identiques, si vous êtes propriétaire d'un des appartements, vous détenez par exemple 100 centièmes. Et le calcul en fait est souvent plus compliqué parce que on a rarement des appartements identiques. Il y a des surfaces qui vont être un peu changeantes d'un appartement à l'autre. Donc, en fonction de la surface exacte de l'appartement, du nombre de parkings, si vous avez une cave ou un cellier, votre nombre de tantièmes sera différent, plus ou moins grand en fonction de la surface que vous aurez en fait en tant que propriétaire dans l'immeuble. Donc, le grand avantage de la maison individuelle, c'est que vous n'avez pas de copropriété et vous êtes donc vraiment le maître à bord. Alors, cet avantage peut-être vous semble bénin au premier abord si vous n'avez jamais encore investi, mais en fait, lorsque vous êtes propriétaire d'un appartement, dès lors que vous souhaitez toucher à la réorganisation de certaines parties de votre appartement, vous devez solliciter une assemblée générale de copropriété pour demander une autorisation aux autres copropriétaires. Par exemple, tout ce qui concerne les balcons. Si vous souhaitez créer une deuxième salle de bain, si vous souhaitez diviser un lot, tout ça en fait nécessite en général un accord de l'assemblée copropriétaire. Par exemple, les trucs tout bêtes, hein, vous souhaitez mettre un étendoir sur votre balcon qui est un peu visible, ou fermer votre terrasse, ou si vous souhaitez raccorder, par exemple, si vous ajoutez une deuxième salle de bain, vous souhaitez raccorder les voies d'eau d'évacuation à la colonne centrale de l'immeuble. Les colonnes centrales étant souvent considérées comme des parties communes, vous êtes tenu de solliciter l'Assemblée générale, etc. Donc en fait, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand. Quand on est propriétaire d'un appartement, contrairement à la maison où effectivement là vous voulez faire une nouvelle salle de bain, pardon, et vous n'avez rien à demander à personne, vous créez votre nouvelle salle de bain, vous reliez à votre évacuation et terminé, quoi, je dirais. Donc voilà. En fonction de ce que vous souhaitez faire, réfléchissez-y en amont, puisque ça peut impliquer des timings plus ou moins longs et des blocages aussi, peut-être parfois si justement les autorisations ne sont pas données. L'auteur insiste sur le fait qu'il faille bien définir l'opération en amont selon les critères étudiés. Il nous donne également quelques conseils à la volée que nous allons voir de ce pas. Tout d'abord, quel type de logement se loue facilement? Bien cibler la fourchette de prix sur laquelle on souhaite se positionner en fait. Dès le départ, En fonction de son budget, on va rechercher des biens dans les annonces qui correspondent à une certaine fourchette de prix. Voilà, si vous ne pouvez pas emprunter plus de 80 000 euros, bah, vous allez éviter de regarder les biens. Voilà, peut-être vous allez d'emblée éviter tous les biens qui sont au-dessus de 100 000 euros. Dans le cas d'une opération immobilière, d'achat immobilier, il s'agit de calculer deux types de scénarios possibles. Premier, c'est le montant de la plus-value minimale et maximale envisagée en cas de revente immédiate. Et le deuxième, c'est le montant du cash flow minimal et maximal, c'est-à-dire donc le montant d'argent qu'il va vous rester une fois le crédit et toutes les charges payées. C'est-à-dire, c'est vraiment le bénéfice qu'il restera dans votre poche, sur votre compte. Et l'idée, c'est justement d'avoir un cash flow positif, une somme d'argent qui arrive en plus avec le loyer du locataire, qui vous évitera de rallonger en fait chaque mois de sa poche. C'est-à-dire le cash flow positif, contrairement au cash flow négatif, où vous serez amené finalement à faire une sorte d'épargne forcée, d'apporter de votre poche tous les mois pour payer votre crédit ou vos charges. Et c'est vraiment, bah voilà, dans ce cas-là, ce serait une opération qui ne s'autofinance pas. Et bah, c'est ce qu'on essaye d'éviter, puisqu'en tant qu'investisseur immobilier, l'idée est de cibler vraiment des opérations rentables, des opérations qui nous rapportent de l'argent pour pouvoir s'enrichir progressivement. Ensuite, quelle démarche adopter? Il y a deux grandes écoles en fait. Soit vous diversifiez les biens, les stratégies, vous êtes un peu opportuniste. Donc dans ce cas-là, vous êtes un peu ouvert à tous les types de biens, tous les types de stratégies d'investissement, ou soit vous concentrez vraiment sur qu'une seule stratégie, qu'un seul type de stratégie particulière. Par exemple, si vous achetez des appartements, vous pouvez acheter que des appartements ou que des maisons, ou peut-être faire un mix des deux, à vous de voir si vous voulez vous diversifier. L'avantage d'acheter un appartement, c'est qu'en général, le ticket d'entrée est moins cher qu'une maison, a priori. Il est plus accessible, mais tout dépend en fait si l'on souhaite acheter aussi dans une ville ou à la campagne. Tout dépend de sa situation, de sa manière de concevoir le logement et la clientèle visée. Donc en fait, la question est de voir vraiment, d'avoir en tête la vision qu'on a de l'investissement sur le long terme et de voir comment ben, on souhaite gérer ces différents types d'investissement. En comparant l'achat revente et la location sur le long terme, en fait, d'après l'auteur, c'est le moyen le plus efficace de se constituer un patrimoine et un revenu. Les différentes stratégies de location que l'on peut citer, c'est bah, la location nue, la location meublée moyenne durée, également la location meublée courte durée, avec notamment la possibilité d'utiliser pour tout ce qui concerne la location touristique des sites internet spécialisés. Qui sont aujourd'hui nombreux. Attention tout de même au type de location vers lequel vous vous portez, car la durée des baux, en fait, des contrats de location, le montant des cautions, c'est-à-dire des dépôts de garantie, la manière générale en fait de gérer la location, si c'est une location nue ou une location meublée, va être généralement différente, puisque on se fait souvent, il y a une réglementation en matière de location qui est différente en fonction du type de location envisagée. Elle peut même varier en fait d'une ville à l'autre, donc vraiment, il faut bien se renseigner si, bah, selon vos critères, ça correspond bien aux obligations en fait qui sont référencées dans la réglementation. Pour ce qui est de la stratégie achat-revente, l'idée d'acheter un bien est souvent en fait de le rénover avec l'idée de pouvoir dégager dans la foulée une plus-value. Avec finalement l'amélioration qu'il y a eu sur le bien. Attention encore une fois à la réglementation en France, car on ne peut pas faire en tant que particulier des opérations d'achat-revente tant que l'on veut, puisque bah, on risque tout simplement d'être requalifié en marchand de biens, c'est-à-dire comme un professionnel de l'immobilier. Et dans ce cas-là, bah, il faut y avoir un titre particulier, une démarche particulière à faire pour avoir ce titre. En tant que particulier, il est tout à fait possible de revendre sa résidence principale. Et c'est même une bonne stratégie, puisque dans ce cas-là, si vous l'avez, disons, améliorée, vous pouvez la revendre plus cher et vous ne serez pas imposé sur la plus-value, puisque c'est votre résidence principale. L'auteur nous conseille de ne pas signer trop vite lorsqu'on est en train de chercher un bien, lorsqu'on a fait une offre. L'idée, en fait, c'est de faire attention à l'ensemble des clauses du contrat, c'est-à-dire du compromis. Il s'agit de bien s'entourer, surtout lorsqu'on fait une opération d'achat-revente, avec son notaire, avec des entrepreneurs et des artisans compétents, s'il y a des travaux notamment. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir le plus d'informations possible et d'avoir en fait des conseils les plus pertinents possibles, bah, tout simplement pour que ça se passe bien et qu'on évite d'oublier quelque chose qui risque de nous coûter cher finalement, puisque dans l'immobilier, si on oublie vraiment une partie, que ce soit des travaux qui ont été mal dimensionnés, des choses tout de suite, ça peut coûter cher, ça peut dépasser votre budget et on peut vite aller dans des complications. L'auteur insiste également sur l'importance de la négociation. La négociation du prix du bien, lorsque vous achetez un appartement ou une maison, contrairement aux idées reçues, en fait, négocier, ce n'est pas forcément être un escroc, c'est tout simplement être un acheteur et un investisseur avisé. Les professionnels de l'immobilier en fait connaissent bien les techniques de négociation et vous pouvez vous en inspirer en tant que débutant. Le principe de base de la négociation est tout simplement de conserver un état de confiance et de bienveillance avec le vendeur. C'est un peu comme de la diplomatie finalement. Il faut toujours éviter de braquer le vendeur. Pour cela, une technique consiste à repérer les défauts du bien et les travaux envisagés. Vous pouvez dire tout simplement au vendeur que sont envisagés des travaux et qu'une négociation serait souhaitable puisque les travaux vont nécessiter un certain coût et la négociation finalement peut être introduite facilement puisqu'elle est, elle est justifiée. Vous pouvez également dire pour moi en fait il s'agirait de faire tel et tel travaux pour que la location soit envisagée, etc. Et dans ce cas-là, est-ce que vous êtes prêt justement à baisser votre prix de vente du fait de ces travaux? Cela en fait vous permet de tâter le terrain avec douceur sans braquer le vendeur. Autre principe de la négociation, l'idée en fait c'est de ne jamais acheter au prix annoncé car souvent les vendeurs affichent des prix gonflés, hein, que ce soit les vendeurs particuliers ou les agences, du fait de la négociation. L'auteur nous dit aussi qu'il ne faut pas faire une offre trop basse car cela peut mettre fin à la négociation tout simplement et on perd tout simplement la possibilité d'acheter le bien. À mon sens, je dirais en fait tout dépend de l'intérêt porté pour le bien. Par exemple, si c'est un bien qui en vaut la peine car déjà, imaginons que vous l'avez estimé à un prix très faible par rapport au marché, si jamais vous faites une offre trop basse, effectivement, vous perdez déjà une bonne affaire. Donc, vous avez plutôt intérêt à y aller mollo sur la négociation et afficher un prix, juste histoire de le négocier un petit peu, mais pas trop, pour être sûr justement de ne pas braquer le vendeur. A contrario, si vous avez repéré un bien qui est pas mal, mais qui présente peut-être beaucoup de défauts, qui ne correspond pas exactement aux critères que vous recherchez, qui est quand même intéressant, mais un peu cher, du coup, n'hésitez pas dans ce cas-là à proposer un prix vraiment plus bas que le prix annoncé. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je fais et ce que je conseille aux investisseurs. Bien évidemment, toujours en argumentant, souvent, on vous enverra balader, hein, c'est clair. Hein, si vous faites des prix divisés par deux ou 30% moins cher, en général, on nous envoie balader. Mais parfois, il se peut qu'on nous fasse une contre-offre. Et ce qui fait qu'on peut retrouver justement le point du compromis de la négociation et qui se rapproche finalement de la meilleure opération qu'on puisse faire avec ce bien. Et parfois, dans des cas, ça peut arriver, où tout simplement le vendeur en a marre, il a du mal à vendre son bien, il accepte tout simplement votre offre. Et là, vous êtes super gagnant puisque vous avez fait une offre très basse et vous obtiendrez du coup un bien très rentable. Lorsque vous faites une proposition orale, cela a beaucoup moins de poids qu'une proposition écrite. Ainsi, l'auteur nous dit que lorsque vous faites une offre d'achat, vous pouvez plutôt le faire à l'écrit. Par exemple, sur papier libre, vous pouvez très bien le faire avec votre signature à la fin. Et cela aura beaucoup plus de poids, d'une certaine manière, sur le vendeur et l'engagera à vous donner une réponse. Si la négociation aboutit, la prochaine étape, c'est la signature du compromis de vente chez le notaire. L'auteur a écrit ce livre en fait pour les investisseurs, mais aussi pour les personnes qui souhaitent investir mais qui n'osent pas, c'est-à-dire si par exemple elles ont déjà endetté avec leur résidence principale, elles se disent bah, c'est déjà assez pour moi et je ne vais pas encore m'endetter pour un investissement locatif. Puisque bah, on a peur d'investir, on a peur des gros montants que ça représente, on a peur de ne pas pouvoir payer en fait l'ensemble des crédits. Effectivement, bah, c'est une peur qui est justifiée, qu'on retrouve beaucoup. Là, l'idée en fait, c'est de dire en maîtrisant vraiment, en se formant, en s'informant, en maîtrisant vraiment toutes les facettes de l'investissement, des stratégies d'investissement, on peut très bien faire ça par soi-même sans prendre de risques. Sans prendre trop de risques, on va dire, il n'y a jamais de risque zéro, mais voilà, on peut très bien maîtriser un risque avec un pool de connaissances voilà, relativement basique, comme, ben, comme ce livre nous l'explique très bien. Prenons notre exemple des locataires qui souhaitent être propriétaires, mais qui n'osent pas non plus investir, puisque dans ce cas-là, on peut imaginer qu'ils ben, pensent que ce n'est pas le bon moment pour eux, etc. Donc, l'auteur nous dit simplement qu'il est possible d'investir avec très peu d'apport, voire pas du tout, que l'investissement immobilier sera toujours possible finalement si vous êtes motivé et si vous faites preuve d'une bonne gestion financière, une gestion financière saine, tout simplement. En investissement immobilier, il faut avoir une vision précise de ce que l'on veut et il faut le souhaiter avec détermination. Après, il s'agit d'établir un plan précis qui vous permettra de réaliser cet investissement. Et un plan se fait depuis la recherche du bien, en passant par la recherche de financement jusqu'à l'acquisition de la gestion locative. Alors, l'auteur nous délivre son plan. Moi, j'ai listé 5 étapes qui peuvent se faire voilà, en plus ou moins quelques semaines. Première étape du plan, les critères de base. Établir son bilan financier, définir l'objectif de l'investissement. Si c'est un achat-revente, par exemple, ou si c'est une location pour vous constituer un patrimoine, listez toutes les caractéristiques souhaitées pour le bien et commencez tout simplement à étudier le marché. Deuxième étape, le dossier bancaire. Calculez sa capacité bancaire avec son banquier et analysez l'aspect fiscalité, puis commencez les visites. Troisième étape, visiter. Donc, tant les visites chez les particuliers que les agences immobilières, vous pouvez, et c'est tout à fait conseillé, visiter plusieurs biens, voire beaucoup, pour tout simplement se faire une bonne idée de ce qui se vend et par rapport à ce que vous recherchez. Quatrième étape, sélectionner le bien. Donc là, vous avez fait suffisamment de visites, vous avez sélectionné votre bien, vous avez fait une offre. Vous pouvez estimer le coût des travaux, faire le point avec le notaire, votre banque, et voilà, et faire votre offre au propriétaire avec bah, les arguments de la négociation. Cinquième étape, revisiter le bien avec un expert si ça n'a pas encore été fait, par exemple pour les travaux, pour bien dimensionner ces travaux, avant d'aller signer l'acte authentique chez le notaire. Donc voilà, pour résumer, ce livre nous délivre pas mal de conseils sur l'investissement immobilier, sur bah, tout ce qu'il faut prendre en compte lorsqu'on n'a jamais investi et qu'on fait des opérations régulière d'investissement immobilier. L'idée de ce bouquin, en fait, c'est de dire que en immobilier, en investissement immobilier, tout est possible et que c'est vraiment une bonne manière de pouvoir accéder à l'indépendance financière. Acheter pour louer permet la création d'un patrimoine et permet un enrichissement sur le long terme, puisque finalement, c'est la stratégie du levier bancaire qui est utilisée et le locataire va payer la plus grosse, voire la totalité des frais sur le long terme et vous allez hériter d'un patrimoine finalement quasiment gratuitement avec monnayant votre sueur, effectivement, votre recherche, vos travaux, ce qui est normal. Mais voilà, disons que vous n'aurez pas à travailler pour aller gagner cet argent. La stratégie d'achat-revente nécessite de s'entourer d'experts, notamment pour bien estimer les travaux et le prix du bien. Et s'entourer d'entrepreneurs, notamment experts en fiscalité, pour tout ce qui est par la partie imposition. Ça, c'est très important, alors, surtout quand on commence à avoir plusieurs biens. La partie fiscale peut vite grimper au niveau des étoiles. Donc là, c'est vraiment important d'accorder du temps à cette question de la fiscalité. Pour la partie négociation, il faut exercer des techniques de négociation qui passent par une certaine analyse psychologique. Et enfin, il s'agit de créer et de suivre son plan d'action détaillé et de l'appliquer pour être sûr tout simplement de ne rien oublier. Voilà, c'était Teddy pour le podcast Vers la liberté financière absolue. J'espère que ce petit épisode du podcast vous aura appris des choses. N'hésitez pas à vous procurer ce livre, Les secrets de l'immobilier, pour justement avoir vraiment le détail de ce qui est expliqué, de ce qui est dit dans le livre. Pour ma part, je vous donne rendez-vous vendredi pour un nouvel épisode du podcast également consacré à l'immobilier qui vous dévoilera les 14 stratégies d'investissement immobilier que j'ai listées parmi les stratégies les plus efficaces pour augmenter sa rentabilité et pour dégager un cash flow qui va vous permettre justement de vous enrichir avec vos opérations d'investissement immobilier. Voilà, avant de mettre pause et de quitter cet épisode du podcast, pensez à le partager si vous l'avez apprécié, si vous l'avez aimé, si vous pensez qu'il peut rendre service à une personne, ce ne serait-ce qu'une personne de votre entourage. Partagez-le sur les réseaux sociaux, envoyez-le avec un lien email. Ça se fait très très facilement. Voilà, n'hésitez pas et merci à vous pour ce partage, puisque c'est une belle façon de m'aider et de m'encourager à continuer à produire ce contenu gratuitement pour vous aider, et également pour faire grandir tout simplement la communauté des gens qui écoutent ce podcast et qui souhaitent s'enrichir pour accéder à la liberté financière absolue. Voilà, c'était dit, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast. Ciao!